ce qui correspond à 93% de réussite. Alors, j'en connais qui m'ont dit qu'ils faisaient mieux, et effectivement, je peux faire mieux. Pour autant, j'ai développé un certain nombre de pratiques pour m'améliorer. En tout, j'ai 200 séances, donc c'est une petite expérience, mais bon, c'est toujours ça, et surtout, mes petites pratiques ont l'air assez efficaces. Donc, j'ai décidé de les partager. Voilà, alors, je peux donner un petit graphique tout de suite qui va donner un peu l'idée de ce que je suis. Voilà, donc ça donne les séances que je faisais au début. Alors, j'ai été formé tout au début et j'ai fait plein d'erreurs, évidemment. En avril, j'ai fait le dev. Donc là, j'ai commencé à faire moins d'erreurs. Et en décembre 2017, j'ai fait l'assertif. Et là, j'ai fait encore moins d'erreurs. Donc, on voit bien que les paliers de formation sont utiles. Mais il n'y a pas que ça. Alors, qui je suis ? En fait, je suis salarié dans une entreprise d'informatique. Là, je suis au boulot. Je ne dirais pas que je suis en train de bosser, mais pas loin. J'ai aucune connaissance en thérapie. J'ai fait une psychothérapie à titre perso, mais je ne suis pas thérapeute. Par contre, je suis quelqu'un d'assez persévérant et notamment, j'aime bien comprendre quand je fais des erreurs et comment je fais pour m'améliorer. Voilà, j'ai trouvé un coach sur la régulation émotionnelle en la personne de Pierre, si présent. Je le remercie parce qu'il m'a permis d'arriver au niveau où j'en suis aujourd'hui. Et Pierre, si tu as besoin de me couper pour rectifier toutes les bêtises que je pourrais dire, vas-y, t'es le bienvenu. Voilà, aujourd'hui, ce que je voulais, c'est vous partager toutes ces petites pratiques que j'ai mises en place, dont une bonne partie m'ont été soufflées par Pierre. Et puis ça m'intéresse aussi d'entendre les vôtres. Voilà, j'aimerais bien que ce soit un lieu de partage plus qu'un lieu de formation magistrale. Alors, j'ai deux leviers principaux pour m'améliorer. J'ai le premier levier que j'utilise, c'est ma posture. Donc, comment je suis, ce que je suis. Ça, c'est ce que... Tu m'as coupé, Armel ? Non, je suis revenu. OK. Donc, c'est ça qui me permet de faciliter les séances. On va dire plutôt ça. Donc, d'éviter les erreurs. Le deuxième levier que j'ai, c'est la maîtrise de ce que je fais. Donc, la compréhension et puis le travail pour l'amélioration. Voilà. Alors, sur la posture, donc je vais prendre les points d'un, je vais décrire tout ce que j'ai mis en place. Donc, la première chose, c'est le détachement. Comme j'ai dit, je ne suis pas thérapeute. Mon objectif, ce n'est pas de rassurer la personne. Mon objectif, c'est d'assurer durant ma séance, donc de faire mon job et de le faire le mieux possible. Donc, j'ai enlevé tout ce qui pouvait me gêner. Alors, j'ai enlevé, c'est un bien grand mot, mais en fait, j'ai régulé tout ce qui pouvait me gêner. Donc, l'envie un peu maladive d'aider, l'enjeu que je pouvais ressentir sur le bien-être des autres. Allô ?
Oui, c'est bon.
Zut.
C'est bon, a priori.
Vous m'entendez ?
On t'entend, Laurent.
D'accord. Il y a un truc qui a planté de mon côté. C'est pas grave. OK. Donc, je continue. Donc, et puis au fur et à mesure des régulations que je faisais sur moi, j'ai remarqué qu'il y a différents sujets qui ont disparu dans ma pratique et qui m'ont été utiles dans les séances, notamment l'empathie et le lien thérapeutique ou le lien d'empathie que je pouvais avoir avec les personnes en face de moi. En fait, le fait d'être vraiment très détaché, qui est « Ok, tu as un problème, c'est ton problème, moi je peux t'accompagner, mais ton problème c'est le tien. » Le fait d'être comme ça, ça m'a permis d'enlever beaucoup de détails dans ce que je faisais et donc de faciliter ma manière de fonctionner. Voilà, après il y a aussi deux petits leviers que j'ai faits qui sont très personnels. Le premier, comme je ne suis pas thérapeute, si je me plante en régulation émotionnelle, j'ai que ça. Je n'ai pas la possibilité de dire que je pars sur autre chose. Donc, bah, il faut que je sois bon là-dedans pour répondre à la demande de la personne. C'est les premières choses. Et deuxième chose, j'ai choisi d'être un praticien bénévole. Donc, de ne pas faire payer mes séances. Voilà, ça permet d'enlever la discussion financière. Alors, ça, c'était un choix tout au début. Et en fait, je m'aperçois avec le temps que je reviens un peu sur ce choix. Je pourrais faire payer. Enfin, ça ne changerait pas grand-chose. Voilà, donc plus je suis détaché, mieux ça marche. Notamment au téléphone avec des inconnus. Bonjour madame, bonjour monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Je vous accompagne et c'est fini. Voilà, donc moi, mon job, c'est d'aider, enfin d'accompagner la personne à faire, pour faire sa régulation. Et si jamais elle bloque un endroit, identifier ce qui bloque et lui donner. Voilà, quand je fais mes séances, je suis toujours dans un état d'esprit qui est, comme ce qu'avait décrit Nelson Mandela, si ça ne fonctionne pas, eh ben, soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire, dans tous les cas, je suis gagnant. Voilà, donc je suis dans une posture qui est extrêmement positive pour la personne que j'ai en face de moi. Donc, je sais que je vais y aller, je dirais, sans peur, sans crainte. Voilà, et puis si je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui bloque, eh ben, je fais au mieux pour trouver une solution pour la personne. Voilà, donc cette posture déjà m'a beaucoup aidé. Après, il y a la congruence. La congruence, c'est le fait d'avoir une cohérence entre ma communication verbale et ma communication non verbale. C'est-à-dire que je crois à ce que je dis et ça se sent. Et pour ça, j'ai trouvé qu'une seule solution qui m'a l'air simple, rapide et durable, c'est de réguler dès que j'ai une difficulté. Donc, dès que j'ai une situation, évidemment, je le fais, mais dès que j'ai une séance avec une difficulté, avec « j'y arrive pas, je voudrais, je suis embêté, qu'est-ce qui s'est passé ?» Boum, je règle. Ça, je ne me pose pas de questions là-dessus. Notamment, le fait de supprimer mes perturbations dans le cadre d'une séance, ça permet deux choses. Un, comme l'avait expliqué Maëlys dans le webinaire précédent, d'éviter la résonance affective. Donc, le fait de déclencher quelque chose chez les personnes en face ou alors moi de me connecter sur les perturbations des autres. Et puis, ça évite aussi tout ce qui est bug d'empathie, de manque de confiance en soi ou difficulté à faire payer ou à poser des questions aux gens. Voilà, donc en étant le plus neutre possible, effectivement, ça facilite, ça donne un terrain neutre pour la personne en face et ça lui facilite le travail. Voilà, après, ça donne aussi un sentiment de confiance à la personne. Donc, elle va éviter de se poser des questions. Ça facilite le cadrage de la séance. Voilà, ça me facilite à moi parce que je vais dire à la personne ce que je veux pour que la séance aboutisse correctement. Après, dans ma posture, il y a le rythme. Donc, on m'a toujours expliqué que la régulation émotionnelle, c'est un croche-patte. On est tout le temps dans le mental et de temps en temps, faut descendre dans le corps. Et pour descendre dans le corps, faut des fois mettre un peu des claques au mental. Pour ça, je ne laisse à l'autre que la place nécessaire pour réguler. Voilà, je chasse tout le reste, tout ce qui est discussion, etc. Bonjour monsieur, bonjour madame. Oui, alors voilà, j'ai un problème. Ok, vous avez une situation. Si vous voulez discuter, c'est plus tard. Pour l'instant, on commence, on prend une situation et on fait le boulot. Et après, on fera tout ce que vous voulez. Alors, par exemple, j'avais une anecdote qui était assez rigolote. Pendant ma certification, j'ai fait ma séance. Voilà, la personne arrive, bonjour, vous avez une situation, oui, choisissez l'instant, je n'ai même pas posé de questions sur la régulation, choisissez l'instant, j'ai commencé direct ma séquence comme ça, la régulation s'est faite du premier coup, on a repris le deuxième, la demi-seconde, il n'y avait plus rien, c'était fini, et tout le monde me regardait avec des grands yeux du type, ah bah c'est possible, tu as été rapide, tu n'as posé aucune question, tu n'as même pas d'infos sur la situation, bah ouais, c'est possible, enfin, c'est la personne qui a fait le job parce que je lui avais donné le terrain qui était adéquate. Voilà, après, j'ai quelques autres exemples. Par exemple, dans mon entreprise, des gens qui viennent me voir, « Ah là là, Laurent, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. » Ok, boum, situation, fini. Voilà, ma séance les plus rapides au téléphone, c'est 6 minutes entre « je décroche bonjour » et « c'est fini, ça a régulé ». Voilà, après, dans le rythme, ça m'est aussi arrivé d'avoir des personnes qui ont besoin de plus ou moins de vitesse dans mes consignes. C'est-à-dire que j'écoute les personnes aussi et elles me disent comment elles ressentent mes consignes. La plupart du temps, les gens me disent quand tu as un rythme assez soutenu, c'est bien parce que je me sens embarqué et je n'ai pas la possibilité de partir. D'un autre côté, certains me disent des fois, quand tu me presses trop, je me sens mal. Et à ce moment-là, j'ai du mal à rentrer dans mes sensations. Voilà, j'écoute, je demande aux personnes comment elles vivent ce rythme. S'il y a des soucis, s'il n'y a pas de soucis, je ne leur pose aucune question et ça marche très bien. Voilà. Après, il y a dans les consignes typiquement le laisser évoluer. Alors ça peut être gênant pour le praticien de répéter régulièrement laisser évoluer, toujours d'une voix un peu monotone et un peu mécanique. Pour autant, c'est quelque chose qui rassure les gens. Donc, ils sont dans un cadre, ils savent que le cadre il est en train d'avancer et ils se sentent à l'aise à ce moment-là. Et c'est un terrain qui est vraiment favorable pour que la régulation se fasse chez eux. Voilà. Après, il y a un certain nombre de consignes que j'ai apprises un peu par cœur, je dirais, pour les personnes qui ont différentes difficultés, donc soit pour les faire sortir du mental, les faire revenir dans le corps, soit pour éviter la focalisation, l'action sur les sensations, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ouvrir et fermer les yeux en plein dans la séquence sensorielle, retourner dans le corps, écouter le bruit extérieur, sentir ses fesses sur la chaise. Enfin, ça, normalement, vous devez en avoir. Chacun doit avoir son petit recueil là-dessus. Donc, dans ma posture, j'ai aussi ma posture de pédagogue. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de faire la régulation et de donner à la personne, donc elle repart avec, la manière dont elle fait, elle, de manière autonome, sa régulation. Donc, si jamais je trouve des bugs, je dis « Ok, là, tu as vu, tu as regardé un peu trop à l'intérieur de toi, tout ce qui était à l'extérieur avait disparu, ça, probablement que tu le fais d'habitude, ah bah oui, effectivement, c'est ce que je fais d'habitude, voilà, bah, en faisant ça, tu vois que tu bloques le processus, donc tu arrêtes de le faire et tu pourras ensuite apprendre à le faire tout seul et ça te simplifiera la chose. » Voilà, notamment, je martèle que c'est une capacité naturelle, que ça fonctionne tout le temps. Donc, ceux qui me disent « ça ne marche pas », je dis « d'accord, mais si ça ne marche pas, on peut comprendre pourquoi. » Ça peut s'investiguer. Mais il n'y a pas de « ça ne marche pas pour moi ». Il existe éventuellement quelques cas très rares. Mais voilà, en restant toujours droit dans mes bottes en face de la personne, en lui disant « non, mais attends, c'est un truc, ça doit marcher. » Donc là, si ça ne marche pas, c'est que tu fais quelque chose et mon job, c'est de t'aider à trouver ce que tu fais. Voilà, maintenant, si j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'on comprendra une autre fois, mais ça marche pour tout le monde et donc on doit aboutir à un résultat. Point. Voilà, donc moi, je suis vraiment dans une posture de facilitateur. La personne, elle fait son job. Moi, j'observe ce qu'elle fait. Elle observe aussi ce qu'elle fait. Elle décrit ce qu'elle fait et en définitive, elle valide le résultat. Donc, je rends vraiment à la personne son boulot. C'est là où je ne suis pas dans une posture de thérapeute. C'est vraiment, écoute, le truc, il est chez toi, c'est toi qui fais. Tu me demandes 3 fois de faire des séances. Et je dis, écoute, très bien, moi, je suis ravi. Mais pourquoi est-ce que tu ne le fais pas toi-même? Enfin, je peux te former là-dessus et puis tu sauras faire. Voilà, après, je ne suis pas là pour étaler non plus ma science. C'est-à-dire que la personne, elle va me poser des questions parce qu'elle a besoin d'avoir des réponses à des questions. Ok, je lui donne les réponses, mais je ne vais pas lui raconter l'intégralité de le protocole, pourquoi, d'où c'est venu, qu'est-ce que c'est, le périnatal, tout ça. Ça, je le faisais au début, c'était vachement rigolo. J'étalais toute ma science pendant 20 minutes. Après, je faisais une séance et je me plantais parce que la personne, elle était partie, je ne sais pas où. Voilà, aujourd'hui, je ne le fais plus ou alors on en discute après. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment le premier levier, c'est ma posture. Après, mon deuxième levier, c'est la maîtrise. Donc évidemment, le premier sujet de la maîtrise, c'est le protocole. Pour moi, le protocole, c'est comme la boîte de vitesse dans la voiture. Ça doit devenir un automatisme. Pour ma part, en fait, j'imagine, ou en tout cas, j'essaye d'imaginer la personne sur le chemin de ses régulations. Donc, j'en suis pas à visualiser les couleurs, mais pas loin. Mais voilà, je me dis où est-ce qu'elle en est. Et puis voilà, ça me donne un référentiel et ça me donne la possibilité ensuite de couper si jamais je sais plus où je suis, soit j'ai l'impression que la personne n'est pas au bon endroit. Voilà, donc la maîtrise du protocole, ça permet vraiment de me concentrer sur tout ce qui est à côté. Donc les bons réflexes. Les bons réflexes, c'est la concision. Moins j'en dis, plus c'est clair. Et ça réduit tous les risques d'induction. Je bannis dans mon vocabulaire, ou en tout cas j'essaye, hein, j'essaye de bannir parce que des fois je me plante, tout ce qui est la possibilité que éventuellement ça ne marche pas, donc le essayer, le tester, on va voir, etc. Ça, j'enlève, c'est on fait, c'est vraiment dans un mode beaucoup plus directif. On fait, on voit, on observe, on avance. Après, il y a les bons termes, évidemment, du protocole qui sont bien choisis pour éviter que la personne parte dans des bugs. Faire des questions ouvertes, ça, je pense que beaucoup le font. Mais j'ai vraiment compris en écoutant, ça on en reparlera après, en écoutant mes séances, qu'en faisant des questions fermées, en fait, j'essayais d'orienter la personne vers ce vers quoi je voulais l'orienter. Mais du coup, ce n'est pas elle qui faisait le job, c'est moi qui faisais le job et ça ne marchait pas. Donc, les questions ouvertes, c'est une question à laquelle il est impossible de répondre oui ou non. Donc, je lui ai posé, vous êtes où? Vous faites quoi? Vous faites comment? Décrivez-moi étape par étape, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas. Voilà, donc c'est vraiment des questions qui est donne-moi l'information. Voilà. Après, alors, Luc disait que l'important c'est l'intention quand on fait la séance, pas les mots de vocabulaire. Bon, je n'ai pas encore atteint ce niveau de perfection. Je me tiens encore aujourd'hui au vocabulaire du protocole. Voilà, j'ai peut-être encore un peu de travail à faire pour arriver à dépasser ça. Voilà, après, dans la maîtrise du protocole, il y a un petit sujet qui est le chrono. Donc, le fait de chronométrer ce qui se passe sur les séquences sensorielles. Avant, je ne l'avais pas. Maintenant, je l'ai. Bah, en fait, avant, je me disais, OK, je vais quand même avancer ma séance. Si ça dépasse un peu de minutes 30, ce n'est pas grave. Et je me suis aperçu que c'était une erreur, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment mieux arrêter quand on était à 2 minutes 30. OK, on arrête, on reprend, on investigue, on comprend, on détermine le bug, on donne le bug à la personne, elle l'enlève et on reprend. Et là, ça marche. Voilà. Donc, c'était vraiment un manque de confiance en moi que j'ai régulé au bout d'un moment. Je ne sais pas trop à quelle occasion. Et une fois que je l'ai régulé, voilà, ça m'a permis de me dire, bah oui, attends, il y a un truc, c'est comme ça que ça marche. Je prends le chrono et voilà. De même, quand je suis dans une séquence et que je suis perdu, que j'entends des termes un peu bizarres, je me sens mal, j'ai envie de pleurer, j'ai de la douleur partout, je suis triste, des trucs comme ça, bon, ok, stop, on arrête tout, on reprend. Voilà, donc sans vergogne, je coupe. Et souvent, je remarque les gens qui me disent « merci parce que j'étais pas bien ». Et là, j'ai rouvert les yeux et ça va mieux. Ok, bah super, on reprend, boum, situation, etc. Voilà, après, il y a évidemment, probablement, j'en sais rien, ce n'est pas bien clair dans mon esprit, des bugs non identifiés qui arrivent de manière assez rare. Plein de fois, quand j'étais moins bon, je me suis dit, ah, bah là, j'ai dû tomber sur un bug qui n'est pas référencé quelque part, mais en fait, je m'aperçois en réécoutant les séances ou en parlant à gauche à droite, que je me suis bien planté quelque part. Donc, on n'est pas sur un bug spécial, on est vraiment sur un... Enfin, pas un bug chez la personne, mais on est bien dans un bug chez le praticien. Voilà. Et c'est mon côté persévérant qui pousse vraiment jusqu'au bout. Après, donc, dans la maîtrise, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'enregistrement. Donc, le fait d'enregistrer ces séances, ça permet d'identifier ses erreurs, d'identifier comment on induit la personne et éventuellement les indices qu'a donné les personnes. Donc ça, j'avais notamment pas mal échangé d'enregistrement avec Pierre, qui lui aussi avait une vision différente. Et du coup, je m'aperçois des fois que lui identifie des indices que la personne me donne que moi, je n'avais pas vu. Donc ça, là, l'enregistrement est vraiment un outil de travail qui est assez formidable. Donc un, réécouter ses propres séances pour comprendre quel est son propre comportement et comment on peut générer des erreurs dans la séance. Et écouter les séances des autres, bien déjà pour affûter ma manière de faire et développer ma capacité d'analyse en temps réel. C'est-à-dire que quand j'entends la séance des autres, je ne suis pas quelque part dans cette petite tension qui fait que j'ai la personne en face de moi et je suis en train de lui faire sa régulation. Je suis dans une tension un petit peu différente qui est que je peux me concentrer un peu plus sur les mots qui sont donnés, sur le déroulement de la séquence. Et là, ça me donne un éclairage supplémentaire. Et enfin, en écoutant les autres, je reprends des bonnes pratiques, des métaphores, du vocabulaire, des manières de faire, un rythme. Voilà, donc tout ça m'apporte. Voilà. Après, le fait de faire aussi écouter aux autres mes séances, ça permet de débusquer mes bugs. Évidemment, j'en avais plein. Par exemple, au début de ma pratique, je me rappelle que plein de fois, je me suis fait avoir parce que j'oubliais systématiquement le revivre cet instant. Voilà. J'étais très embêté à chaque fois d'oublier, mais ça n'arrivait pas à venir. Bon. Aujourd'hui, je vais mieux. Concernant la prise de notes, alors je note en fait toutes mes séances scrupuleusement. Donc, quelle est l'empreinte, quels sont les bugs que j'ai identifiés. Et je réutilise à chaque fois mes notes pour une séance avec une nouvelle séance avec la même personne. Donc, pour savoir quels sont les bugs, donc lui demander si elle est toujours dans la même posture ou pas. Voilà, si elle a réussi à enlever ça, si elle arrive à le faire toute seule, etc. Et évidemment, je note mes erreurs et j'identifie tout ce que j'aurais pu améliorer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une séance sur laquelle le résultat n'était pas là, eh ben, je me suis demandé où est-ce que j'aurais pu m'améliorer. Je note ça. Et puis après, j'ai une petite liste de choses qui, au fur et à mesure, rentrent et deviennent des automatismes. Voilà. Après, tout ça me donne aussi des statistiques de suivi. Ça me permet d'identifier mes bugs récurrents, les types de séances qui reviennent couramment en erreur. Donc, tiens, par exemple, je sais pas, les gens qui sont en dépression, j'en vois un certain nombre, et cela systématiquement, j'arrive pas à trouver la situation, ou j'arrive pas à les aider à réguler, ou enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe mal. Donc là, à ce moment-là, je comprends bien que j'ai un défaut quelque part chez moi que je peux améliorer. Je prends ça, je le partage avec d'autres, et puis en définitive, j'arrive à trouver des solutions dans la majorité des cas. Voilà, là j'ai à peu près fait le tour de ce que j'utilise. En petite conclusion, je dirais, le truc important, c'est d'agir. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'en parle avec d'autres amis praticiens que je connais. Ça m'améliore, ça les améliore eux. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux et ça, c'est vachement sympa. Alors l'APT, bah, l'APT, ça fait la même chose, hein. Ça réunit aussi des praticiens. Là, il y a les webinaires qui vont s'organiser. Il n'y a pas de protocole. Chacun fait comme il veut. Je pense que chacun peut s'organiser ses petits groupes locaux, partagez-en et tout le monde en profitera. Voilà. Après, il y a d'autres petites choses intéressantes aussi. Le fait d'inviter, par exemple, un praticien durant sa séance. Le fait d'avoir un observateur à côté, c'est intéressant, c'est instructif. Il le voit. Éventuellement, on discute pendant la séance parce que lui, il voit quelque chose d'autre. J'ai deux exemples. On avait organisé des tipis en folie. Je sais que le terme tipi, il faut l'enlever et on le changera. Mais on avait organisé ça. On avait fait ça deux fois. C'est-à-dire qu'on pose des chaises, une table à un endroit. On avait fait ça au bois de Vincennes deux fois. Et puis les gens qui passent, on leur propose de les aider à réguler. Voilà. Donc on est plusieurs praticiens. Et là, effectivement, on s'observe. On fait ça ensemble. Ça, c'est assez marrant. On a fait ça aussi quand on a fait quelques essais avec un ami sur des séances sous électroencéphalogramme. Et du coup, on est deux à faire la séance. Il y en a un qui pilote l'électroencéphalogramme et l'autre qui est dans la séance. Voilà, et puis ça permet d'échanger également. C'est vraiment assez sympa. Après, ce qui est aussi rigolo, c'est de pratiquer le plus possible. Donc, toujours dans l'action. Moi, j'ai essayé mes séances dans plein de situations diverses et variées. On sort d'un restaurant. On a parlé de régulation émotionnelle pendant le déjeuner et je dis à ma copine, ah bah tiens, là tu veux le faire? Ouais, tu as une situation? Ouais, boum, voilà. On est devant tout le monde, devant le public, on ne se pose pas de questions, on y va. Ça donne plein de situations riches et puis ça permet d'ajuster un petit peu sa pratique, c'est vraiment sympa. Voilà. Après, si ça ne marche pas, parce qu'évidemment c'est un phénomène qu'on peut rencontrer, eh ben, c'est qu'il y a un bug quelque part, eh ben, le mieux c'est partagez-le, discutez-en, comprenez, régulez. Réguler, ça améliore les séances, mais ça améliore aussi la vie dans laquelle on est. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc moi, ce qui m'intéresserait maintenant, bah, c'est de partager avec tout le monde. J'accepte d'avoir dit des bêtises. Et puis, je pense que ça serait super sympa pour moi d'avoir plein d'autres petits trucs et puis d'entendre les retours de chacun là-dessus.
Alors je vous invite à saisir votre micro et à pas hésiter à poser des questions à Laurent ou faire des retours.
Ok, moi je peux commencer. J'aime bien ton. Voilà, c'est. Ça me confirme dans l'idée qu'en fait, plus on colle au protocole et plus on colle à ce que Luc nous a dit, plus ça fonctionne et plus on est efficace, plus on peut s'améliorer. Il n'y a pas de secret, mais ce n'est pas forcément si facile que ça, quoi, en fait. Et bah, merci pour tous les petits trucs que tu nous as donnés pour justement comment s'approcher de ça au plus près. J'aime bien aussi tes statistiques de suivi. Moi aussi, je suis plutôt ingénieur, un peu le même profil que toi dans la pratique, pas du tout thérapeute, etc. Et ça me parle, je veux dire, les indicateurs, évidemment, en tant qu'énergéticienne, voilà. Et puis aussi l'histoire de la neutralité. Et c'est vrai que souvent, enfin, pour soi, le cadre neutre, intervenir le moins possible et. Ben moi, je considère un petit peu cet outil régulation comme. Voilà, je suis un peu en mode automate quand je fais ma séance. Bon, évidemment, très, très à l'écoute, mais voilà, je déroule la séance. Et aussi, ben voilà, l'empathie, tout ça, c'est après, pas avant, en tout cas. Après et tout ça. Et souvent, les personnes, ben, même si on n'est pas thérapeute, ils ont des fois besoin de raconter des trucs. Donc, c'est là où l'empathie peut être intéressante. Et puis voilà, moi, je me considère un petit peu aussi, la position, c'est un appui pour d'autres thérapeutes ou bien des médecins ou bien des infirmiers. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas forcément à faire quelque chose ou ils ont besoin d'aller plus vite. Dans leur ou d'être plus efficace, ben voilà un petit les orienter vers moi, ben ça peut être pour eux un grand gain d'efficacité. Voilà comment je me considère, pas thérapeute, mais un appui pour des spécialistes ou des et c'est ce que je vais développer dans en septembre, à partir de septembre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, c'était super sympa, super intéressant.
Ça marche. Merci. Voilà un petit Pierre. exemple. Oui, Pierre Berthier.
Ah, vas-y, j'ai eu un bug. Je voulais rajouter un
Parfait.
point, mais je te laisse terminer,
Cette situation.
vas-y. C'est un point technique.
Vas-y, dis-moi.
Ça va. Ça transparaissait dans tes propos. Moi, ce que j'aime beaucoup, et je sais qu'on a ça en commun, c'est le côté à la fois curieux et presque ludique. En fait, j'ai l'impression quand on pratique, on s'amuse. Et puis aussi l'idée que, comme tu le disais, tu martèles que c'est une capacité naturelle. Une anecdote qui illustre ça dans ma pratique, c'est avant les gens venaient me voir en disant, ouais, ça a l'air bien ton truc. Est-ce que tu penses que ça marche pour, je sais pas, la nosophobie ou l'hémétophobie? Et avant, je me lançais dans une explication enthousiaste. En disant, ben ouais, tu vas voir, c'est génial et tout. Et puis ça durait 10 minutes et puis on n'avait rien fait. Et maintenant, je fais semblant de ne pas savoir de quoi l'autre parle, en disant, j'en sais rien. Limite, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as une situation? Et là, les gens, ils ont le regard devient vitreux pendant 3 secondes. Boum, je les ai renvoyés dans les cordes et ils répondent, ah ben oui. Et hop, on démarre. Et ça, j'appelle ça le différé spontané. Et autant des fois en séance avec rendez-vous, paiement, j'ai des galères et des échecs, autant sur les différés spontanés, je n'ai pas souvenir que ça ait foiré une fois, que ça n'ait pas marché une fois. Donc cette notion de ça doit, le taux normal de réussite, c'est un peu comme la cicatrisation ou la coagulation. D'abord, c'est naturel, ça se fait tout seul, et le taux normal de réussite, c'est 100%. Donc d'abord, on y va. Et seulement après, s'il y a quoi que ce soit, on corrige. Voilà, je voulais ajouter ce côté ludique, curieux, plaisir. Souligner.
Ok. T'as raison, faut se marier.
J'ai une question sur vos statistiques 100% là, en fait. Je me suis plusieurs fois demandé si, en fait, vous considériez le 100%, c'est sur une séance réussie ou sur une problématique éliminée. Par exemple, j'ai un monsieur qui est venu me voir et puis qui a des problèmes, qui se sentait violent, en fait. Il avait peur de sa propre violence. La première séance, qui a été une séance réussie au niveau du déroulé, mais visiblement, il n'a pas pris une bonne situation. Puis après la séance, il a commencé à m'expliquer un peu plus, parce que je n'avais pas trop fouillé au départ, évidemment. Et j'ai découvert, en fait, quels étaient vraiment ses effets, les effets qu'il avait avec sa difficulté. Et je me suis dit, on n'a pas pris la bonne situation. Mais je ne vais pas faire une deuxième, évidemment. Mais du coup, est-ce que celle-ci, vous la considéreriez comme réussie ou pas réussie ?
Ah bah, pour moi, c'est réussi.
Pour moi, c'est réussi.
D'accord. Il a choisi une situation. Okay. Voilà. Après, je peux essayer de le cadrer ou lui demander, lors du choix de la situation, est-ce que c'est vraiment la situation et ne correspond pas tout à fait à votre difficulté. Pourquoi pas ? Mais la grosse majorité du temps, je ne me pose pas de questions. Et je vais même dire un petit peu plus. Pour moi, une séance réussie, c'est une séance où j'ai apporté la bonne réponse à la personne. C'est-à-dire que des fois, la régulation n'a pas fonctionné, mais j'ai compris pourquoi. On est tous les deux d'accord et on sait qu'il va y avoir un petit peu de travail à la personne pour qu'elle comprenne bien quel est l'automatisme qu'elle a développé en elle, pour qu'ensuite la régulation puisse aboutir. Voilà. Et pour moi, les séances qui n'ont pas abouti, c'est les séances où je n'ai pas compris. Voilà, je n'ai pas de solution, je ne sais pas. Ou alors, j'essaye un truc et on travaille ensemble dessus et on s'aperçoit dans le fond que ça ne marche pas. Voilà. C'est vraiment ces situations-là, enfin, ces séances-là.
Et j'ajouterais, Maëlys en parlait l'autre jour, c'était très intéressant. C'est Pierre à nouveau qui parle. Une séance, moi, ça m'est arrivé une seule fois de dire à la personne, dans les jours ou les semaines qui viennent, vous allez trouver une situation. Le jour du rendez-vous, elle n'en avait pas. Et ben, cette séance-là, pour moi, elle est réussie. Puisqu'on est précisément là en train de faire le travail. Et on fait le travail le plus difficile qui consiste à amener la personne là où on voudrait qu'elle soit, c'est-à-dire en face de sa difficulté. Et ça, pour moi, c'est une séance réussie. Sinon, pour le reste, je vise quand même la disparition de la difficulté qui avait été donnée au début. Et même si souvent, on a beaucoup de bonnes surprises, il y en a plusieurs qui disparaissent, je ne lâche pas tant que la demande initiale n'a pas trouvé de réponse.
Bah Annie, je suis désolé, j'ai coupé ton micro, mais on entend des trucs très bizarres.
Annie se serait-elle transformée en chou?
D'accord, t'as le même problème. Bon, bah, désolé, Annie, je te coupe.
Ah, j'ai une question d'Emeline qui me demande est-ce que je revois la personne ou fais un bilan téléphonique pour savoir si la difficulté est résolue? Alors, oui, dans la grosse majorité des cas. Après, ma posture qui est vraiment... en dehors du cadre thérapeutique et dans un mode « je fais ça n'importe où, n'importe quand », ça fait que je fais quand même, je dirais, peut-être un quart de mes séances avec des gens que je vois. Comme ça, je rencontre, boum, je fais le machin. Et après, c'est fini. Et je ne les revois plus. Et à la limite, je n'ai presque pas de coordonnées. Alors, bon, peut-être qu'un quart, c'est trop. J'ai peut-être 15%. Mais voilà, donc dans la mesure du possible, oui. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, et ça, je les martèle avec, c'est que ce n'est pas moi qui te fais une séance. C'est toi qui régule tout seul. Donc, je t'ai montré une fois comment ça se passe. Tu l'as vécu. Voilà. Après, c'est le job, c'est à toi de le faire. C'est à toi d'apprendre comment le faire. Voilà. Donc, le fait de les revoir après, c'est vraiment pour ancrer le « alors, comment ça va ?» Et moi, ça me fait plaisir, évidemment. Et ensuite, bah, comment tu as fait ? Est-ce que tu as continué à pratiquer ? Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que tu as des difficultés, etc. quoi. Non, non, je ne leur apprends pas en même temps. Non, non, on fait les choses dans l'ordre. Et quand je leur ai fait la séance, ce que je leur propose, qui est éventuellement une erreur, ça, j'en sais rien, et peut-être que je vais découvrir un jour, c'est que je leur dis, voilà, la régulation, elle s'est faite. Maintenant, tu as vécu ce que ça fait. Si tu veux, quand ça t'arrive, continue à le faire. Eh ben, vas-y, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Après, il peut y avoir des difficultés. Hein. Ça, j'évite de le dire pour éviter d'induire la personne, évidemment, mais ça m'arrive des fois de tomber dans le piège. Mais voilà, pratique, fais ce que tu veux, on en recause, je t'aide, on comprend, on avance, tu deviens autonome, et puis c'est fini, quoi. Et après, oui, l'autonomie, c'est... Enfin, on va plus travailler sur l'autonomie dans un second temps. C'est-à-dire qu'au sortir de la séance, si je commence à faire un cours magistral sur, même quelle que soit ma capacité pédagogique, qui est forcément limitée par définition, mais même si je lui fais un super cours, la personne, elle sera déjà... Enfin, il y a déjà un travail qui a été fait derrière, elle est en cours... Enfin, sa régulation est en train de se faire. OK. Stop, laissons-la tranquille. Juste, j'ouvre sujet pour donner envie. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'idée.
Moi, j'aurais une question. Mariani, côté... Oui. Voilà. Lorsque j'ai été formée, il était dit qu'on ne faisait pas plusieurs régulations en différé dans une journée. Alors, je voudrais avoir des précisions par rapport à ça.
Alors, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Hein. Enfin, moi, comme j'ai dit au début, je ne me pose pas de questions. Donc, si la personne, elle est demandeuse et qu'elle veut en faire 12, j'en ferai 12. Voilà, maintenant, de mon expérience, je ne crois pas en avoir... De moment, la personne est en train de bâiller et de se liquéfier que ce n'est pas la peine de continuer. Mais... Ce que j'ai compris, c'est que la personne est fatiguée par ça et du coup, il faut éviter de trop entasser. Ce que je comprends parfaitement, effectivement, c'est ce que j'observe. Mais pour les gens qui sont demandeurs et qui ont l'air de bien tenir, OK, bah, go. Hein. C'est pas moi qui régule, c'est pas moi qui suis fatigué. La personne, elle demande, je lui donne. Et puis au pire, ça lui fera un enseignement à elle pour comprendre que bah, la prochaine fois, il faut peut-être y aller un petit peu plus doucement. Quoi.
Deuxième question encore. Moi, j'ai un souci avec les séances où il y a du différé et en même temps du direct. C'est-à-dire que la personne vient pour une situation... pour une difficulté émotionnelle, donc on fait une séance en différé, et puis si on prend le temps après de parler un peu, ben, parfois il y a une émotion qui arrive comme ça, séance en direct. Alors, quid de cette façon de faire ?
Alors, je vais répondre déjà que je serais bien mal placé pour faire la moindre supervision sur le sujet, et qu'effectivement, ça faudrait plutôt demander aux personnes qui ont plus de recul que moi. Après, moi, ce que j'ai compris au travers des formations que j'ai eues, c'est que on peut traiter une émotion parasite en direct quand cette émotion n'a rien à voir avec la difficulté sur laquelle la personne est venue travailler. C'est-à-dire que si elle te dit, je sais pas, j'ai un problème avec avec les femmes. Voilà, j'ai un problème avec les femmes. J'arrive pas à parler avec elles, c'est terrible. Ok, boum. Tu commences la séance. Il dit, bah, voyez, par exemple, j'ai du mal à parler avec vous. Là, je me sens pas bien. Tu peux pas partir en direct là-dessus. C'est ok, stop. Situation, et on y va en situation. Et vous fermez les yeux et vous faites ce qu'il faut. Voilà. Et là, c'est vraiment le rythme très assertif pour cadrer la personne et éviter qu'elle reparte dans les « oui, mais en fait, j'ai du mal parce que vous comprenez mon chien, tout ça. Enfin, » bon. Non, c'est, tu cadres, bam, situation. Et là, c'est ton job de dire « non, tu n'as pas le choix. Tu veux résoudre ce truc-là, ok, on y va, mais c'est moi qui vais te dire comment y aller. » On fait comme ça, tu donnes la situation et c'est fini. Après, si la personne elle dit, écoutez, voilà, j'ai un problème avec les femmes, mais j'ai un rendez-vous après et je me sens vachement stressé parce que je ne sais pas si j'arriverai à l'heure, je ne sais pas combien de temps ça va durer, tout ça. Ok, là, tu es sur une émotion parasite. Bah, d'accord, ça fait quoi dans votre corps? Boum, quoi.
Merci. D'accord.
Laurent, dans ton expérience, les gens à qui tu as expliqué une deuxième fois comment réguler par eux-mêmes, tout ça, est-ce que tu as l'impression qu'ils se le sont appropriés et est-ce que tu as une petite statistique, toi qui aimes bien regarder ce que ça donne?
Une statistique formelle sur le sujet. J'ai rencontré trois cas. La personne qui me dit... non, j'ai oublié, je ne sais pas, peut-être. Bon, voilà. Ça, c'est, on va dire, environ la moitié des gens que je revois. Ou alors, ils me redemandent une séance ou ils essayent de me bredouiller que oui, ils ont essayé un truc, mais ça n'a pas marché. Bon, a priori, c'est des gens qui n'ont pas essayé, mais d'un autre côté, comme je ne les ai pas formés, sur l'autonomie, enfin, tu vois, j'aurais juste dit, tu as vécu un truc, ton corps il le fait, tu peux faire pareil, quoi. Donc effectivement, c'est pas très étonnant. J'ai une deuxième catégorie de personnes, c'est plutôt les gens qui ont envie. Voilà, c'est moi j'ai envie, j'ai compris qu'il y avait un truc, je vais essayer, mais j'y arrive pas, ça fait tout le temps pareil, ça me fait trop mal, j'ai peur, patati patata. Ok, ça c'est à peu près 25% des gens que je revois. Et après, le dernier quart qui reste, c'est des gens qui me disent « Ah ouais, c'est génial, j'ai essayé plein de fois, bah là, ça a marché, ça m'a fait du bien. Ah bah oui, puis j'ai commencé à en parler à mon frère, à ma sœur, à mon machin, etc. » Ouais, ça j'ai... D'ailleurs, ça, moi, c'est ce que je préfère, c'est les gens qui comprennent que voilà, y a un truc, je peux me l'approprier, c'est mon truc, c'est pas toi qui me l'apprends, c'est moi qui l'ai. Voilà. Mais bon, c'est... Je dirais, c'est les meilleurs cas. Mais si on prend que c'est le quart par rapport aux gens que je revois, et si je revois peut-être, je ne sais pas, allez, on va dire 60% des gens que je rencontre, ça veut dire qu'on est dans les entre 10 et 15% de gens qui se l'approprient vraiment, quoi. Ce qui est assez faible statistiquement.
Merci Laurent.
Tu as dit hier encore, quelqu'un m'a présenté une situation de plus de 2 ans. Bah écoute, deux solutions, hein. Soit ça marche, soit ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, faut autre chose de plus récent. C'est vrai que c'est étonnant de se dire, il y a un truc qui est arrivé il y a 2 ans, et plus jamais ça m'a embêté depuis, mais vraiment, il y a 2 ans, c'était dur. J'aurais plutôt tendance à creuser le « d'accord, mais comment ça t'impacte dans ta vie quotidienne ?» Effectivement. Ah oui, mais je ne prends jamais la gueule. Ouais, on t'entend très mal, Annie. Il y a un schmoll chez toi, je ne sais pas quoi. Mais écris dans le chat, c'est bien le chat. Ouais, il y a toujours l'exemple qui me vient en tête, l'exemple de la peur de l'avion, avec la personne qui dit « mais je ne prends pas l'avion, donc je n'ai pas de problème ». Oui, mais enfin, donnez-moi une situation où vous avez été confronté à l'avion, au concept de l'avion, à l'opportunité que vous pourriez le prendre, que vous devriez acheter des billets. Et là, la personne dit « ah oui, effectivement ». Ouais, il y a un mec qui m'a parlé de San Francisco et là je me suis dit oh ça c'est le truc, je pourrais jamais y aller, de toute façon il faut prendre l'avion. Boom. Et là ça marche. Annie, sinon ce que tu peux faire c'est de téléphoner à la conférence plutôt que de te connecter par internet. Alors, tu verras pas ma tête, je suis d'accord que c'est super frustrant, mais et au moins on verra bien.
J'avais envie de revenir sur le direct et le diffusé. Et le différé, qu'est-ce que je raconte ? En fait, j'ai le micro qui bug un peu. Parce que moi, il me semble que justement, quand la personne vient pour une situation qu'elle veut traiter en différé, mais que ça correspond à ce qu'elle est en train de vivre en direct, bah, c'est encore mieux. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, on t'entend.
Ouais. Qu'il faut se saisir de ça, finalement.
Alors, écoute, c'est ce que je me suis dit quand j'ai fait ma première formation pro, formation pro avec Luc. Et donc, la personne était mal. Donc, elle voulait traiter en différé un problème de « j'aime pas être dans une salle enfermée avec des gens okay ». Et donc, j'ai passé à peu près une demi-heure à écouter la description de toutes ces sensations jusqu'au moment où Luc a fini par, d'un geste magnanime, dire « stop ». Merci Laurent, c'était un très beau cas pédagogique. Donc, quand la personne vient pour faire un truc en différé et que vous le prenez en direct, eh ben ça ne marche pas. Voilà, donc pourquoi, j'en sais rien. C'est ce qu'on observe. Donc le mieux à ce moment-là, c'est de ne pas se poser de questions. C'est OK, là, il y a un risque que ça ne marche pas. On reprend le protocole de A à Z, boum, situation. Et c'est vrai que ça peut être, je dirais, gênant pour la personne en face de dire, mais attendez, là, je ne suis pas bien. Donc pourquoi est-ce que vous me demandez une situation d'avant ? Et là, c'est ton rôle de praticienne d'être clair dans ta tête et de dire, non, moi, je veux une situation, il faut me donner une situation et on va partir d'une situation, point. Et c'est comme ça que ça va marcher. Et là, dans ta posture et dans ta manière de faire, la personne va dire « Ok, je suis bien cadré, je suis bien emporté, je me sens en confiance, on y va. »
Ok. En fait, je pense à un cas justement où la régulation elle n'a pas fonctionné. Et c'est une personne qui venait par rapport à une problématique de honte. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai eu le sentiment en réécoutant après qu'elle était clairement dans cette situation, c'est-à-dire de me parler de sa difficulté, elle avait honte d'en parler, etc. Donc c'est ça qui me fait poser cette question.
Ouais, il y a déjà des gens que j'ai rencontrés je veux pas trop parler de la situation, comprenez, c'est compliqué. Et là, toujours dans le même mode, c'est « Ok, c'est pas grave, prends la situation.
» Oui, mais c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait.
Oui, mais je veux dire, dans un mode extrêmement directif, la personne n'a pas trop le choix, tu vois, si ce n'est, comme dirait Luc, au moment de fermer les yeux. Mais je me demande s'il y a vraiment un choix à cet endroit-là parce que la personne, elle a envie et moi, je suis très, très directif. Donc, c'est vraiment un rythme rapide, un rythme appuyé, un ton de voix assez ferme et c'est ça qui pousse, tu vois, et là on se pose moins de questions à ce moment-là.
Ouais, ok, non mais c'est bien d'en parler parce que justement c'est une des rares séances qui n'a pas marché. Alors, je me suis dit peut-être que j'aurais dû m'apercevoir avant que Elle était vraiment dans sa problématique et le traitait différemment de ce que j'ai fait, voilà. Mais non, c'est pas ce que vous me renvoyez, donc ok, il a dû y avoir un autre bug alors.
C'est une bonne occasion de réguler pour toi, bravo.
Oh, ça va, on est humain. Hein. Bon, mais merci de votre retour.
Ça marche.
Mais par curiosité, Laurent, les gens qui te contactent, est-ce qu'ils ont tendance à te recontacter une deuxième fois, une troisième fois? Est-ce qu'ils y reviennent ou pas?
Date et que je fasse des chiffres. Ce qui est, les gens que je revois, on en reparle. C'est une constante. Après, est-ce qu'ils viennent me redemander une séance? Ouais, il y en a un petit nombre. Il y en a un petit nombre, mais comme je pousse vraiment à l'autonomie, il y a assez peu de monde. Il y a assez peu de monde, mais évidemment, quand les gens sont demandeurs, j'y vais, quoi.
Moi, j'ai une question un peu différente qui n'est pas liée à la pratique, mais qui est plutôt liée au nombre de régulations qu'une personne pourrait faire pour elle-même. C'est-à-dire qu'en 2013, quand j'ai été formée, il était question de 10, une dizaine de régulations. Or, moi, je constate que j'en fais beaucoup plus que ça pour moi-même. Je suis loin d'avoir dépassé la dizaine de régulations, alors j'arrive pas à... Voilà, je voudrais avoir votre point de vue par rapport à ça.
Alors,
la question précédente, parce que le nombre de personnes qui pourraient revenir nous voir...
Ouais, je comprends. Alors, deux choses. Premièrement, je ne me pose pas ces questions-là. Il y a un truc, je régule, point. Ça s'arrête là. Après, moi, je me rappelle d'une expérience que j'ai faite au début. Une fois qu'on m'a appris l'autonomie, j'ai dû faire, je sais plus, une quarantaine de fois. J'ai dû réguler une quarantaine de fois, et à chaque fois, c'était des situations très différentes qui n'avaient rien à voir, mais j'avais les mêmes sensations. Et à un moment, j'ai été formé en direct par Luc, enfin au direct. Et je me suis dit, je vais en profiter pour poser la question à Luc. Et je lui ai dit, je ne comprends pas, parce qu'on m'a appris qu'à chaque fois, il y avait des sensations différentes. Mais moi, j'ai régulé 40 fois, et 40 fois, c'était les mêmes sensations. Pourtant, ça n'avait rien à voir. Et il dit, c'est que tu es dans la même perturbation et tu n'arrives pas à la finir. Là, je me suis dit, quel est le sale con qui me dit ça? Le gars, je sais très bien ce que j'ai fait. Et non, mais il avait parfaitement raison. J'étais en train de réguler toujours le même truc. J'arrivais pas à le finir. Je l'ai compris quand c'est une praticienne qui l'a fait et qu'en définitive, le truc est passé. Donc, le nombre, j'en sais strictement rien. La théorie, j'en ai aucune idée. La seule question que je me pose, c'est est-ce que j'ai réussi à réguler un truc? C'est tout. Voilà, c'est un truc qui est apparu. Est-ce que j'ai réussi à le réguler correctement? Tiens, une autre petite anecdote. Là, ça faisait 2-3 mois, il y avait une petite empreinte qui revenait, un truc très léger, mais bon, et ça revenait, donc je comprenais bien que je n'arrivais pas à le réguler. Et j'ai fini par comprendre que ma sensation de fatigue avec les yeux lourds qui étaient au milieu de la séquence, c'est pas que c'était fini, c'est que c'était une sensation. Et donc, quand j'ai eu cette sensation-là, au lieu de me dire « Ok, c'est fini, je rouvre les yeux », je me dis « Bah, il y a quoi d'autre ?» Et là, j'ai laissé évoluer, et il y a eu d'autres choses ensuite, et au bout d'un moment, il y a bien un truc qui est parti, et c'est plus revenu.
Merci. Une question sur la respiration. Parce que quand on est face à quelqu'un qui est en difficulté respiratoire et on sent sa tentation d'aller chercher sa respiration, c'est pas facile. Hein.
Laissez évoluer cette sensation. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans le corps? Laissez évoluer. Et c'est toi qui la rassure, la personne. Évidemment que c'est difficile d'avoir une sensation de respiration qui se coupe. Mais c'est à toi de lui dire, par le ton, par la manière de t'exprimer, « Non, mais tout va bien. Tout va très, très bien. C'est exactement comme il faut et ça va être génial. »
Oui, mais quand la personne est en train d'intervenir sur sa respiration.
Dans ce cas-là, tu finis ta séquence ou tu l'arrêtes. Ça, c'est ton choix. Et ensuite, tu discutes avec la personne. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma respiration s'est coupée quand même. Ça a été gênant. Mais au bout d'un moment, c'est revenu. D'accord, c'est revenu tout seul. Il y a fait quelque chose au moment. J'ai rien fait du tout. C'est revenu tout seul. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu plus ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais en train de regarder ma respiration. Et puis, effectivement, au bout d'un moment, ça s'est débloqué comme ça. Et puis, tout s'est arrêté d'un coup. D'accord. Écoutez, on va refaire une. On va reprendre, boum, on reprend la situation et le truc revient. Et là, on dit à la personne, bon, vous voyez, il se passe, vous faites quelque chose, en fait, sur votre respiration. Peut-être, oui, parce que dans ce cas-là, vous avez peur à ce moment-là ou je ne sais pas quoi. Cette chose que vous faites sur votre respiration, il ne faut pas le faire pour que ça puisse aller plus loin. Donc, à ce moment-là, quand vous avez cette sensation-là, vous regardez ailleurs les autres sensations, vous portez votre attention sur le reste du corps et puis vous allez voir que les difficultés liées à cette sensation, elle va disparaître. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu souvent pour moi et que j'ai vécu dans des gens en face de moi qui étaient dans, la focalisation. Quoi. Je suis dans un truc, dès qu'on défocalise de ça, c'est beaucoup plus facile. Quoi.
J'ai une question sur le bâillement. Est-ce qu'on m'entend?
Oui. Oui, on t'entend. Oui. Je sais pas, par contre, je sais pas qui tu es.
Bon, super. Alors, c'est Isabelle Dreyfus. Coucou. J'ai une question sur le bâillement parce que j'ai eu quelqu'un hier en type direct qui n'arrêtait pas de bâiller et je suis sûre qu'elle essayait de soulager ses sensations et même en la mettant vraiment dans ses sensations, elle me disait « mais mon corps me le demande ». Ok, son corps le lui demandait. Et donc, évidemment, ça n'a pas abouti. Comment empêcher les bâillements?
En faisant prendre conscience à la personne qu'elle agit sur ses sensations. C'est ça le truc. Il faut qu'elle comprenne.
Oui, mais malgré tout, oui, bien sûr. Mais,
et après, c'est une question de temps. Des fois, c'est une question. J'ai revu des gens 2, 3, 4 fois et à chaque fois, ils me décrivent que oui, alors là, c'était mieux, là, c'était pire, mais au fur et à mesure, j'arrive effectivement à mieux comprendre, à prendre un peu de distance. Ce travail, des fois, il est très rapide chez certains et puis des fois, il peut être plus long. C'est ce que j'observe.
Tu veux dire, comment tu fais alors quand tu as des bâillements, très concrètement? Elle baille, on reprend, on arrête puisqu'elle agit, et puis on repart parce que de toute manière elle est en émotion. Donc voilà.
Moi je demande à la personne si elle a encore des sensations désagréables. Si elle en a pas, j'arrête la séquence et je repars sur une nouvelle séquence. Et là je vois ce qui se passe. Et si effectivement ça revient, il y a une suspicion de bug et là faut se poser la question. Mais c'est pas tellement elle a bâillé, donc probablement qu'elle a agi. C'est qu'est-ce qu'elle a fait de manière générale? Ça, j'avais ce problème-là avant, c'est-à-dire que, ok, la personne, elle a fait ça, je l'ai vu, donc je vais l'amener doucement vers, hein, t'as vu, t'as fait ça, hein, c'est pas bien. Et ben ça, évidemment, dans la moitié des cas, ça plante, parce que la personne, elle a fait autre chose, et je me suis planté de chemin, quoi. Donc, c'était vraiment question ouverte, ok, vous avez fait quoi? Il s'est passé quoi? Vous avez fait un truc, ça marche tout le temps, vous avez fait quoi? Je peux vous aider en vous posant des questions sur ce que vous avez fait et avoir cet œil de praticien, mais il faut que vous me décriviez ce que vous avez fait et on va reprendre des choses étape par étape.
Sauf que quand elle remarque qu'elle baille, elle me dit oui, mais c'est mon corps qui me le demande.
Bien sûr.
Bah oui.
Et sauf qu'on va lui dire que votre corps, il le demande, mais c'est un peu votre tête aussi. Et votre tête, si elle le demande, effectivement, là, ça va être gênant. C'est pas que le corps qui le demande. Moi, mon corps, quand il me coupe ma respiration, il me demande de respirer. Ouais, mais c'est le haut du corps qui le demande. C'est pas le bas, quoi. Donc c'est encore une fois, c'est vraiment faire prendre conscience à la personne que, ok, il y a un processus, ça marche tout seul, mais s'il y a un bug, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe.
Merci.
Bon, je vous signale qu'il est 1h02, hein, donc s'il y en a qui veulent partir, n'hésitez pas. À toi de voir, Laurent, comment tu veux finir ou continuer. Voilà, à toi de voir.
Non, mais sinon, tu vois, je me disais un truc, Armel, c'est que ça pourrait être un peu dans le format de ce qu'avait proposé lui, que ça pourrait être sympa d'avoir des petits webinaires rapides, un peu sur ce thème, tu vois. Après, est-ce que c'est l'acte qui prend le sujet? Est-ce que c'est Tipeee qui prend le sujet? J'en sais rien. Mais voilà. Pas tellement de la supervision, mais plutôt de l'échange de bonnes pratiques.
Ouais, ok, tu veux dire genre une demi-heure d'échange entre praticiens pour qu'on se pose des questions. Tiens, moi j'ai tel truc, ça m'interroge, c'est ça? Un petit peu comme j'ai réécouté mon enregistrement, je me rends compte qu'il y a tel truc, parce que c'est une séance qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, ce genre d'échange?
C'est ça.
Alors ouais, moi, j'y suis ouvert, hein, n'hésitez pas à donner votre avis.
Il y a une unanimité généralisée dans le chat.
De la part de la PT, pourquoi pas, on pourrait organiser systématiquement un jour donné une demi-heure qui permet à ceux qui en ont envie de se rejoindre et puis de discuter, hein, voilà, d'échanger, de poser des questions, des interrogations. Hein. Je peux en discuter avec le bureau et puis on va faire ça. Voilà, pourquoi pas.
Là, le 3 juillet, il y en a un autre qui est prévu. Hein, je fais ma pub. 3 juillet. Ce sera sur l'utilisation du téléphone. Et peut-être que ça intéresse, si dans les gens qui sont là présents maintenant, il y en a peut-être qui ont des idées. Sabine avait fait sur le sommeil, c'était génial. On a tous, je crois, une teinte particulière, une façon particulière, et on peut apporter aux autres, même si on n'est pas expert ou super efficace. Mais n'hésitez pas, envoyez un mail à Armel et proposez-lui des sujets. Il vous dira.
Il y a un sujet qui m'interpelle un peu en ce moment, c'est la régulation émotionnelle et les rêves. Alors, je vais raconter, j'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps. Et j'étais dans une situation de chute dans une falaise. Je m'accrochais à la falaise et je me suis dit, je vais faire une régulation émotionnelle. Et Et en fait, bon, ça a eu deux effets. D'abord, un effet, ça a été ah oui, mais si j'ai une sensation de perte d'énergie, bah, je vais tomber puisque je ne vais plus réussir à m'accrocher à la falaise. Et il y a eu un autre effet qui a été ah bah ça tombe bien, il y a des alpinistes à côté de moi, ils vont me prêter un baudrier et une corde et tout va bien. Et j'étais assez interpellée par ce rêve. Bon, voilà. Peut-être que c'est très anecdotique. Hein.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est parti ?
Bah ça, j'en sais rien.
D'accord. Et est-ce que tu as essayé de le faire en différé ?
Sur le rêve ?
Ouais.
Ah ben, je peux essayer encore.
J'en sais rien. Faut tenter.
Enfin, ça fait aussi écho à ce que disait Luc lors d'une dernière formation où il y avait Pierre qui était là également sur Tipeee et psychosomatique et où il évoquait que quand on fait une séance en psychosomatique, on va chercher une situation qui a eu lieu dans la journée, donc après la nuit. Et Luc disait que bon, les liens entre ce qui se passe la nuit et les émotions qui sont soit atténuées, enfin, soit mis en latence plutôt. Et, en fait, il disait tout simplement qu'il ne savait pas très bien comment ça se passait entre ce qui se passe la nuit et ce qui se passe le lendemain. Je vois s'il y en a pour ce... C'est un peu confus hein, ce que je raconte.
Non, enfin, c'est... Enfin, j'en ai un petit peu entendu parler, j'étais pas à la formation, j'en ai un petit peu entendu parler. Ce que j'ai compris, c'est que c'est une observation qu'a fait Luc. Après, le pourquoi du comment, c'est super compliqué. Quoi. Mais,
moi, je pourrais juste donner un témoignage d'une personne qui est venue me voir par rapport au vertige. Et quand je l'ai recontactée, bien sûr, elle n'avait pas voulu se remettre en situation de vertige, mais elle a dit « j'ai fait un rêve ». Et dans ce rêve, je voyais que j'étais en haut d'une falaise et que j'allais tomber. Je me suis rappelée qu'on avait fait une régulation. Et c'était fini. Et après, elle m'a recontactée plus tard pour me dire qu'elle s'est effectivement retrouvée en haut d'une cathédrale, enfin, visite de Tours, et qu'elle s'est penchée, qu'elle a pris une photo et tout allait bien. Donc, le rêve, c'était le premier pas. Et puis après, il y a eu une autre confirmation. Donc, je ne sais pas si ça peut... En tout cas, pour moi, c'était du bonheur. Déjà, ce rêve qu'elle m'a raconté, c'était déjà une avancée. Voilà. Pas plus, merci.
Oui, effectivement. Et puis, tu me l'avais raconté, ça. C'est vrai qu'à premier abord, ça donne l'impression que la régulation, c'est fini dans le rêve, quelque part. Après, enfin, pour reparler un peu de l'efficacité... Toutes les questions qu'on peut se poser autour de ça, enfin, pour ma part, je n'ai pas besoin d'avoir de réponse à ces questions-là. Je prends et puis on déroule le protocole. Quoi. Enfin, c'est aussi bête que ça. Et voilà, et on prend et puis on avance au fur et à mesure. Quand est-ce que ça a régulé ? J'en sais rien. Ça a régulé, point, c'est fini. Enfin, le reste, on s'en moque. Quoi. Sabine Camus veut nous parler des rêves. Et ben voilà.
Oui,
Armel, une proposition de webinaire.
Oui, je voudrais revenir justement sur ce qu'a proposé Pierre. Donc effectivement, il y a un webinaire sur la régulation émotionnelle par téléphone le 3 juillet hein, à 12h30. Donc je vous invite à y venir. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est pas tant qu'est-ce que vous voudriez qu'on expose comme sujet, mais plutôt quel sujet vous voudriez exposer. Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas d'essayer de combler vos attentes, c'est plutôt qui a envie d'y aller pour présenter quelque chose, en fait. C'est vrai qu'on se dit, c'est ça qui motive les gens, finalement, on est bénévole. C'est si j'ai envie de faire quelque chose, et ben, je contacte l'APT, et puis je lui dis, bah, tiens, moi, je ferais bien ça, est-ce que c'est OK pour vous d'en être le support, et puis voilà. Et c'est comme ça que ça marche le mieux, en fait. Parce que comme ça, les gens font ce qui les intéresse. Ils n'essaient pas de satisfaire les besoins des autres, en fait. Voilà.
À mon avis, il faut continuer par mail, Armel.
Bon, s'il n'y a plus de questions, alors je vois qu'il y a quelques échanges sur le chat là, mais n'hésitez pas à prendre la parole, c'est quand même plus simple. Hein. Mais sinon, je vous propose d'arrêter là, il est 13h11. Est-ce que Laurent, tu veux dire un mot de la fin et puis conclure? Puis fermer?
Écoute, comme dirait Pierre, oui Annie, on veut bien t'écouter. Comme dirait Pierre, bah super qu'on ait eu une audience, qu'on ait eu des questions, des remarques. Voilà, on a eu 20 personnes, c'était bien. Il en reste encore à peu près combien 2480 à mobiliser. Bon, il reste un peu de boulot, mais on avance, quoi. Voilà, à bientôt.
J'ai hâte, Laurent, que tu te formes à psychosomatique. Parce que si tu dépotes en psychosomatique comme tu le fais en classique, ça va être sympa.
Ah. Ok. Ouais, tu sais, j'ai quelques autres projets aussi. Voilà, que je me ménage un peu.
Merci en tout cas.
Ça marche.
Bon, merci à tous. Je vais fermer la session, ce qui va tous nous déconnecter. Donc,
merci Laurent.
Merci beaucoup. Bye bye.
Ça marche. Merci. Au revoir à tous. Oui.